Au lieu de l'histoire, en Pays de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vais vous faire découvrir les hauts lieux de l'histoire des Pays de Savoie. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des Pays de Savoie et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder l'identité savoyarde. Aujourd'hui, ce lieu dont je vais vous parler est Chambéry et ses éléphants. Aussi étonnant que cela puisse être, jadis, les pachydermes ont traversé en nombre les Pays de Savoie. Le passage des Alpes par Hannibal est un fait historique, même si des interrogations subsistent quant à l'itinéraire emprunté par les hommes et par les colosses. Aujourd'hui, le regard du visiteur vient arpenter le centre-ville de Chambéry et ne manque pas d'être attiré au détour d'une place par une superposition de trois monuments d'une hauteur de près de 18 mètres. D'abord une fontaine dont le plan évoque la croix de Savoie avec quatre éléphants et leur défense. En fonte de fer, réunie par la croupe, qui laisse jaillir l'eau de leur trompe dans un bassin en forme octogonale et qui porte sur le dos un oudé, une sorte de palanquin utilisé en Inde à la guerre ou à la chasse au tigre. Ornement de bas-reliefs, d'inscriptions et garni de trophées hindous, persans, mongols, drapeaux, casques, armes et armures. Ensuite, une colonne de pierre calcaire dont la base figure le tronc d'un palmier. Enfin, posée sur cette dernière, la statue de bronze du général le comte Benoît de Boigne, de 1551 à 1830, enfant du pays et à qui cet édifice est dédié. Associer l'éléphant et l'eau n'est pas en soi une mauvaise idée. Cette force de la nature recherche en effet les marécages, lançant avec sa trompe sur sa peau sèche et fragile où viennent se loger les parasites, des douches de sable ou de boue. Depuis longtemps, la bestiole fascine les humains. Voyageur lent et rude, mélange de force et de douceur, avec sa mémoire prodigieuse, il oublie jamais le mal qu'on lui a fait. Avec intelligence, prudence, fidélité à son clan. Bien que terrible dans ses colères, il est d'une grande bonté, celle des géants. Que des artistes l'immortalisent sous la forme d'un monument de pierre en bronze, en granit, n'a dès lors rien de surprenant. Au milieu du XVIIe siècle, on installe à Rome, sur la Piazza del Minerva, un éléphant de marbre soutenant un obélisque égyptien, allusion à la force au service de la connaissance. De même, à Catane, en Sicile, au centre de la Piazza del Duomo, on élève vers 1735, au-dessus d'une fontaine, la statue en basalte d'un éléphant portant sur son dos un obélisque en granit de 4 mètres de haut, emblème de la ville. L'animal est censé la protéger des colères explosives de l'Etna. À Chambéry, on érige la fontaine des éléphants en hommage à un bienfaiteur de l'ancienne capitale du duché de Savoie, né au sein d'une famille de pelletiers. Benoît le Borgne s'engage à 17 ans dans l'armée française de Louis XV comme simple soldat. Découvre l'Europe et les îles de l'océan Indien, puis, assoiffé d'aventure, intègre le régiment gréco-russe chargé d'attaquer l'armée ottomane. Il embarque ensuite pour le Madras, au sud de l'Inde, devient le bras droit de Nabab et, arguant de la difficulté qu'éprouvent les Anglais à prononcer le R de son nom, se fait appeler de Boigne. Ambitieux, doué par le métier des armes, il impressionne son entourage, prend rapidement du galon, se révélant un excellent meneur d'hommes et fin technicien. À la tête d'une brigade de 12 000 soldats marâtres, le général en chef choisit comme étendard pour sa troupe le drapeau savoyard, le français en tant que langue officielle, et forme pour la première fois en Inde un corps d'ambulanciers chargé de venir en aide aux blessés, quel que soit leur camp. Dans le même temps, il s'associe avec deux amis européens, s'adonne aux négoces de l'or, de l'argent, des soieries, des épices et gagne beaucoup d'argent. Sur le terrain des opérations militaires, il commande à présent une armée de 100 000 hommes, remporte victoire sur victoire, est reçu partout avec les honneurs, mais à 45 ans, l'aventurier savoyard finit par se lasser de la guerre et de ses atrocités. En 1796, il débarque à Londres, où il croise bientôt une jolie fleur âgée de 16 ans, Adélaïde d'Osmond, fille d'émigrés français ayant fui la Révolution. Il répudie Nour, d'origine persane, épouse d'Élie 10 ans plus tôt, et se marie avec la jeunette. Mais la grande différence d'âge, la jalousie du soldat quinquagénaire, les fréquentations d'Adélaïde, attirées par le libéralisme anglais, font que cette union s'avère aussi vite un échec. Sans enfant, les époux se séparent d'un commun accord et le général de Boigne, c'est ainsi qu'il se fait appeler, retrouve Chambéry où il fait construire le château de Buisson-Ron. Royaliste jusqu'au bout des ongles, il est un fervent partisan du gouvernement sarde de Victor Emmanuel Ier qui lui décerne le titre de comte en 1816. Sous le masque de prestige se cache une grande générosité. Dans sa ville natale, Benoît de Boigne va consacrer une partie de sa richesse à améliorer le sort des pauvres, des orphelins et des malades. Il participe ainsi aux dépenses de construction des bâtiments de l'Hôtel-Dieu, finance l'ouverture de 10 lits destinés aux patients victimes de maladies contagieuses. Dans un ancien couvent, il fonde un asile de la vieillesse. Il dote le corps des sapeurs-pompiers d'une rente perpétuelle. En manière d'instruction publique, il verse une grosse somme d'argent pour la réorganisation du Collège national, fait un don aux frères des écoles chrétiennes, un autre aux sœurs de Saint-Joseph et accorde une rente perpétuelle de l'Académie royale de Savoie dont il est membre. S'agissant de travaux publics, le comte aide à l'édification d'une église, à la construction d'un théâtre, à la rénovation de la mairie, à la création en centre-ville d'une voie qui enchantera Stendhal, qui dit « J'ai passé toute ma journée sous les portiques de la belle rue de Boigne à Chambéry, je pensais à la douce Italie. » Et ça dans un mémoire de touriste. Benoît de Boigne s'éteint le 21 juin 1830 à l'âge de 79 ans. Empressé de lui témoigner la reconnaissance, la ville décide d'élever un monument en son honneur et lance un concours afin de trouver un sculpteur. 17 projets atterrissent sur le bureau du conseil, qui retient celui d'un grenoblois, Pierre-Victoire Sapé, pour son faible coût et son originalité. Les travaux débutent au printemps 1835, et sous les yeux ébahis des Chambériens, l'inauguration officielle en grande pompe de la Fontaine des éléphants se déroule le 10 décembre 1838. À l'apex de la colonne trône la statue du bienfaiteur, vêtue de son uniforme de lieutenant général du roi de Sardaigne, sa main droite tenant le registre des dons à la ville de Chambéry. Les mastodontes sans postérieur qui montent la garde au pied du célèbre officier rappellent son époque en Inde où il disposait d'un éléphant de parade répondant au nom de Bhopal. Très vite, les gens du coin baptisent l'édifice les 400 culs. Emblématique de Chambéry, le monument sert de point de rassemblement. Épargné par le bombardement aérien du 26 mai 1944, il fait l'objet d'un ravalement de sa façade et plusieurs restaurations. La dernière en date, de 2015, pour l'occasion, la foule vient en nombre aux abords du chantier, curieuse de découvrir enfin à quoi ressemble le derrière de ces éléphants. Cette chronique est tirée d'un livre de Pierre Hoffmann, Au lieu de l'histoire en pays de Savoie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et surtout, à une prochaine fois.